Ce message est intitulé « L'explication en 6 points de la visite de Gabriel à Daniel ». Il a été prêché au Branham Tabernacle à Jeffersonville, Indiana, dans les États-Unis d'Amérique du Nord, le 30 juillet 1961. Et il est le second message d'une série de 3 dont le titre général est « Les 70 semaines de Daniel ». Voici donc le message de Frère Branham. Le frère Branham s'adresse personnellement aux jeunes gens et aux jeunes filles de 13 à 19 ans qui sont venus écouter la parole de Dieu et il les félicite. Puis il s'adresse ensuite à l'auditoire, note de l'éditeur. N'est-ce pas étrange? En ouvrant ma Bible, je suis tombé sur le chapitre 9 de Daniel dont justement je dois vous entretenir ce matin. Je pense que vous tous, vous appréciez comme moi la présence du Saint-Esprit dans cette salle ce matin. Nous sommes heureux d'être tous réunis dans une communion fraternelle. Oh, comme il est doux, comme il est bon, comme il est agréable de demeurer tous ensemble dans l'unité. Cela ressemble à la précieuse huile d'onction qui descendait jusqu'à la barbe et de là jusqu'à l'ourlet de sa chemise. Merci, mes amis, pour toutes vos marques d'affection envers moi. Que ferais-je sans vous? Si personne ne m'aimait, si personne n'écoutait mon message, c'est qu'il serait mauvais. Je ne peux pas le prêcher aux poteaux télégraphiques ou aux arbres. Ils ne le comprendraient pas. Le message vous est destiné à vous tous qui venez ici pour l'écouter. Que Dieu vous réserve dans la gloire une belle et charmante demeure. C'est ma prière. J'espère et je crois qu'il l'exaucera. Ce soir, je ferai une courte lecture. Combien parmi vous appréciez dans la joie les premières leçons concernant les 70 semaines de Daniel? Très bien. Combien j'aime le livre de l'Apocalypse. Réellement, je vis en lui. Priez pour moi cette semaine, car dimanche prochain, Dieu voulant, j'aurai dans cette salle à vous instruire sur la position exacte de ces 70 semaines. C'est un sujet dont je ne sais absolument rien en ce moment. Je n'ai qu'à me confier entièrement dans le Seigneur qui me donnera la réponse. J'ai lu beaucoup d'ouvrages traitant de cette question, particulièrement les notes marginales du docteur Scofield, réputé pour ses études bibliques. Certainement, je ne serai pas d'accord sur beaucoup de points exposés, car l'ensemble ne donne pas une image satisfaisante. Voici, il faut examiner ce problème comme s'il s'agissait d'un jeu de puzzle, constitué par une belle image collée sur un carton et découpée à la scie et de multiples morceaux. Il s'agit de placer chaque morceau à la place qui lui est destinée, afin de reconstituer l'image entière. Seul le Saint-Esprit est capable de reconstituer cette grande image de la rédemption en plaçant telle ou telle écriture à sa place exacte. Ce que nous voulons, c'est l'image exacte, la vérité. Jusqu'à ce que nous connaissions la vérité, nous laissons le problème de côté. Mais quand Dieu nous donne la vérité, alors nous agissons et nous en reparlons. J'ai fait moi-même une expérience à ce sujet. Je pense que notre frère Roy Slaughter et d'autres vétérans de ce tabernacle s'en souviendront. Oh, il y a bien longtemps de cela, c'était durant les 3 ou 4 premières années de mon ministère, ici même. Il m'était impossible de prêcher sur l'enfer, car je ne pouvais discerner s'il s'agissait d'un tombeau ou d'un lieu rempli de flammes. Je mis de côté ce sujet jusqu'au jour où il me serait révélé la vérité à ce sujet. J'ai agi ainsi, car je me rends compte qu'un ministre de Dieu est responsable devant lui de ce qu'il prêche à son auditoire. Ce dernier lui fait confiance et il accepte ce message. Qu'en serait-il si un jour, ce que j'ai prêché comme vrai devait se révéler par la suite comme erroné? Dans la vision du paradis que me donna le Seigneur il y a quelque temps, je voyais tous ces millions d'élus dont l'un me dit « Tu seras d'abord jugé par l'évangile que tu as prêché ». J'ai répondu « J'ai prêché exactement comme Paul et les autres apôtres ont fait, et tous ces millions de voix furent unanimes à dire, nous nous sommes appuyés sur cet évangile. Voyez-vous, c'était en règle. Ainsi, je veux poursuivre dès maintenant notre leçon, afin de ne pas trop vous retarder ce soir. Ce matin, j'ai parlé de Daniel en captivité, de la visite de Gabriel et des révélations qu'il lui donna sur le futur. Ce soir, nous allons parler des 6 points ayant motivé la visite de Gabriel à Daniel, et dimanche prochain, Dieu voulant, nous déterminerons l'emplacement exact dans le temps de chaque semaine et où nous en sommes nous-mêmes. Si nous pouvons seulement déterminer ce calendrier d'une façon certaine et positive, alors nous connaîtrons l'heure exacte dans laquelle nous vivons. Aujourd'hui, personne, ni Jésus lui-même, ne connaît quand il reviendra. Lui-même a dit, seul le Père le sait. Les anges ne le savent pas non plus. Ce que nous pouvons connaître, c'est le temps dans lequel nous vivons, et nous savons que nous sommes vraiment tout près de l'enlèvement. Dans la leçon de ce matin, après avoir examiné les chapitres 4 et 5 de l'Apocalypse, nous avons abordé le chapitre 9 de Daniel. Ce soir, nous allons parler de ce dernier chapitre, mais auparavant, inclinons nos têtes pour un instant et parlons au Créateur de l'univers. Notre bon Père céleste, nous sommes certains que tu connais les profonds désirs de notre cœur. Tu sais pourquoi nous sommes ici. Tu sais que ce n'est pas pour y trouver un endroit agréable, pour connaître un moment de détente en cette fin d'après-midi. Père, je ne pense pas qu'il y ait ici dans cette salle une seule personne qui soit venue dans ce but. Je crois que nous sommes tous ici parce que nous sommes profondément sincères et honnêtes, et notre seul désir est de savoir ce qui sera dit dans le nom du Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur, et nous aimons ta parole. Nous te sommes reconnaissants d'avoir pourvu à ce toit reposant sur ces blocs de béton pour nous permettre de nous rassembler ici. Nous savons qu'au-delà des cieux, tu nous as préparé une maison vers laquelle tu nous conduiras. Nos pères n'avaient pas ce privilège de se réunir aussi confortablement, et notre cœur est lourd de honte à la pensée que nous pourrions nous plaindre. Maintenant, Père, nous te prions ce soir d'ouvrir pour nous les Saintes Écritures. Viens, sois auprès de chacun de ceux qui ce soir se dirigent sur la route pour venir ici. Parle-nous comme tu parlas à ces deux disciples qui se dirigeaient de Jérusalem à Emmaüs, et qu'à la fin de ce service, nous puissions retourner chez nous et dire, nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous lorsque nous l'avons entendu parler lui-même au travers de sa parole? Bénis la lecture, bénis mes faibles efforts, Seigneur. Ouvre ma bouche à tout ce qui est vrai et ferme-la à tout ce qui est faux. Sois glorifié et glorifie-toi dans ton peuple, afin qu'il puisse voir l'heure dans laquelle nous vivons et comprendre que le retour du Seigneur Jésus-Christ est proche. Nous te le demandons en son nom, le nom de Jésus-Christ. Amen. Revenons maintenant à nos Écritures pour quelques moments. Nous avons vu que Daniel avait déjà vécu 68 longues années de captivité. Pensez-y, de l'an 606 avant Jésus-Christ à l'an 538, soit une période de 68 ans. Daniel avait été un captif, n'ayant aucun temple à fréquenter, aucune prédication à entendre, rien. Mais il possédait quelques livres, quelques rouleaux parlant de prophéties de quelqu'un qui avait prophétisé avant lui. Et ce prophète était Jérémie. En étudiant les Écritures, Daniel se rendit compte que la période de 70 ans, fixée pour la durée de la captivité, touchait à sa fin. Daniel croyait solennellement à chaque mot de la prophétie de Jérémie. Ce soir, je demande à ma classe, croyez-vous à nos prophètes? Oui, monsieur, car c'est la parole de Dieu qui est annoncée par les prophètes. Ils possèdent le « ainsi parle le Seigneur ». Un véritable prophète ne prononce pas une seule parole qui soit contraire à celle d'un autre prophète. Il dit ou confirme ce qu'un autre vrai prophète a dit. Alors, il faut annoncer avec certitude ce qui doit arriver dans le futur. Pour être certain de dire la vérité et ne pas nous tromper, ce qui égarerait bien des personnes, nous voulons être absolument sûrs de posséder la parole du Seigneur en nous, avant de dire « ainsi parle le Seigneur ». Voyez-vous ? Ce doit être absolument un message direct du trône de Dieu, sinon nous ne dirions rien. Daniel, en lisant les Écritures, s'aperçut qu'il ne restait que 2 ans à accomplir avant que Dieu restaure son peuple et le ramène dans sa patrie. Pendant qu'il était en prière, nous avons vu qu'un ange puissant descendit du ciel pour le visiter. Quel est son nom ? L'assemblée répond « Gabriel », note de l'éditeur. Savez-vous que l'ange Gabriel, c'est l'ange de l'Église juive? Le saviez-vous? Partout, il s'agit de Gabriel. Gabriel est le messager pour l'Église juive. C'est lui qui est apparu à Marie. C'est lui qui parla aussi à Zacharie. Partout, c'est Gabriel. C'est l'un des plus grands anges dans les cieux. N'a-t-il pas apporté notre frère Daniel une merveilleuse salutation de la part de Dieu ? Ô Daniel, tu es grandement bien-aimé. Cela ne vous fait-il pas du bien de penser que Dieu vous aime ? Oh, si je n'étais pas profondément aimé, j'aimerais seulement savoir si je pouvais l'être un petit peu là-haut, et vous-même certainement aussi, qu'il puisse me faire connaître ce qu'il pense de moi, ce qu'il désire de moi, c'est de proclamer qu'il a toujours pris soin de moi. Et nous avons tous l'assurance qu'il prend soin de chacun de nous, car lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort à notre place, frère. Autrefois, nous étions des étrangers pour Dieu, et maintenant nous sommes tout près de lui. Dieu nous a donné le gage de notre salut, qui est le Saint-Esprit, et une foi qui nous élève au-dessus des choses de ce monde, et que nous surmontons. Tout ceci est glorieux. N'est-il pas vrai ? D'accord. Pendant que Daniel était en prière, Gabriel vint le visiter, et lui dit que non seulement il ne restait que 2 ans de captivité à subir avant le retour dans la mère patrie, mais il lui révéla quel serait le destin de cette nation d'Israël. Pensez-y, le destin complet, voyage par voyage sur la terre. Gabriel expliqua tout ceci à Daniel. Qu'a dû ressentir ce grand prophète devant cet exposé ? Il lui dit que 70 semaines avaient été fixées pour ce peuple jusqu'à la consommation des siècles, jusqu'à la fin du monde. Gabriel dit, il y a 70 semaines. 70 semaines ont été fixées pour ton peuple. Dans quel but ? Pourquoi ? De quel peuple s'agit-il ? Du peuple de Daniel, du peuple juif ? Pour qui et pourquoi ce délai fut-il fixé ? Non seulement pour Israël, mais également pour la cité sainte de Daniel. Je demande à ma classe, quelle était la ville sainte de Daniel ? L'assemblée répond, Jérusalem, note de l'éditeur. Jérusalem, oui. Et maintenant, cherchons où se trouve Jérusalem. Qui l'a bâti ? Et maintenant, nous allons savoir peut-être ce soir où se trouvait Jérusalem. Qui fonda Jérusalem ? Y avez-vous jamais pensé ? Qui fonda Jérusalem et à quelle époque ? Mes amis, c'est un petit quelque chose qui est caché dans un coin, mais qui va se découvrir. Oui, monsieur, qui fonda Jérusalem et à quelle époque ? Très bien, c'était la cité sainte de Daniel. Nous comprenons que cette cité qui a été maudite pendant près de 2000 ans sera reconstruite. Tout y sera rétabli à nouveau, et l'adoration dans le temple sera de nouveau instituée, comme au premier jour. C'est vrai, il y aura de nouveau un sacrifice, une oblation journalière, offerte comme dans les temps anciens. Nous allons approfondir ce soir, je le pense, l'ensemble de toutes ces choses. Maintenant, mes amis, je veux que vous sachiez qu'en insistant sur toutes ces choses, je vais certainement négliger des semaines d'enseignement, mais il est nécessaire que vous les gardiez en mémoire. Plus tard, quand nous en arriverons aux 7 sceaux, aux 7 coupes, aux 7 trompettes, et à toutes ces choses-là, je pourrai vous dire, vous souvenez-vous de ces études sur les 70 semaines de Daniel ? Vous rappelez-vous ces 7 âges de l'Église, quand l'épouse fut ravie et ce qui se passa à ce moment-là ? Cette 70e semaine de Daniel couvre cette époque depuis l'enlèvement de l'épouse jusqu'à son retour. 70 semaines ont été fixées. Gabriel indiqua à Daniel quelle était la raison en 6 points de sa visite et quels seraient les événements à venir. Revenons-en maintenant au point des Écritures que nous avions laissé ce matin. Nous y sommes. Relisons le 9e chapitre de Daniel au verset 24. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple. Rappelez-vous que ces 70 semaines ont été fixées au peuple juif pour parvenir au bout du voyage sur cette terre. Et sur ta ville sainte. C'est également au terme de la 70e semaine qu'une nouvelle cité de Jérusalem sera reconstruite. Je pense que ce soir, nous allons étudier tout cela en profondeur. Que 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. Pourquoi ? Pour faire cesser les transgressions. Que lui dit Gabriel maintenant ? Il lui fait comprendre que le temps de la fin est proche. Pour nous aujourd'hui, il en est de même, Seigneur. Combien parmi vous êtes de cet avis ? Que cela dise Amen. Très bien, merci. Nous sommes à la fin. Maintenant, nous allons déterminer avec l'aide de Dieu quel sera le délai qui reste à vivre d'ici là. Dans quel jour vivons-nous ? C'est pourquoi nous devons retourner à tous ces anciens prophètes et tâcher de déceler dans leurs écrits où nous en sommes aujourd'hui. C'est ce qu'avait fait Daniel. Il levait son visage vers Dieu. Combien parmi vous ont-ils lu aujourd'hui le chapitre 9 de Daniel? Levez vos mains. Très bien. Vous avez lu la prière que Daniel adressa à l'Éternel, comment il présenta sa propre confession et celle de son peuple. Il voulait être sûr de connaître à quel moment exact le départ pour Jérusalem se produirait, afin qu'il puisse préparer le peuple pour ce retour. Aujourd'hui, ce que j'essaye de faire, c'est de découvrir à quel moment nous serons enlevés, et vous préparer à vous tenir prêts pour cet enlèvement. Êtes-vous prêts? Nous avons levé notre visage vers Dieu, et nous l'avons prié, et nous l'avons supplié pour être éclairés à ce sujet. Seigneur, en quelle heure vivons-nous? Nous avons été témoins de tous ces événements qui se déroulent de nos jours. Nous constatons que le monde est en plein chaos. Nous voyons que le temps est proche. L'écriture manuscrite est sur le mur. Tout ce qu'a annoncé Dieu se réalise. Notre président est persuadé qu'une nouvelle guerre mondiale est imminente. Nous savons que dans l'espace de quelques heures, après le début du conflit, toutes ces nations seront réduites en cendres volcaniques. Et nous savons qu'il en sera ainsi. Nous savons également qu'avant le déclenchement de ces cataclysmes, l'épouse doit être enlevée. Ô Seigneur, où en sommes-nous? Je pense qu'il nous répondra à ce sujet. Nous avons levé nos têtes pour le découvrir. En premier lieu, que nous puissions le savoir. Reprenons Daniel chapitre 9 verset 24. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et la prophétie et pour oindre le Saint des Saints. Voilà les 6 raisons de la visite de Gabriel. Et maintenant, commençons par le premier point. Faire cesser les transgressions. Pour faire cesser les transgressions de la loi contre Dieu, il faut que cesse l'impiété du peuple de Jacob. Pour cela, lisons Romains chapitre 11, versets 21 à 26. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, c'est-à-dire le peuple d'Israël, il ne t'épargnera pas non plus. Je vous demande de lire chez vous le chapitre complet 11 des Romains. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi si tu demeures ferme dans cette bonté. Autrement, tu seras aussi retranché. Eux de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront hantés, car Dieu est puissant pour les hanter de nouveau. Voyez-vous, il leur dit qu'il viendra un temps où les gentils seront abandonnés et Israël réintégré. Si toi, tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage, les gentils, et hanté contrairement à ta nature sur l'olivier franc, un bon arbre, nous étions contraires à la nature, étrangers, sans miséricorde, sans Dieu, sans espoir. Mais Dieu dans sa grâce nous a donné une chance, et il se sépara aussitôt d'Israël à cause de ses transgressions, et il le délaissa. Par contre, il greffa sur l'olivier franc Israël, l'olivier sauvage, les gentils, contraire à la nature du premier. Poursuivons notre lecture de Romains 11, 24 à 26. Si toi, gentil, tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage, et hanté contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils hantés selon leur nature sur leur propre olivier? Car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Voyez-vous, tant que Dieu s'occupera des gentils, Israël sera aveuglé. Il restera dans le péché et dans la transgression contre Dieu. Dieu le rend aveugle afin que nous, les païens, nous puissions être greffés en lui. Saisissez-vous? C'est pour vous et moi que Dieu a aveuglé les Israélites. Mais le reste d'Israël, du véritable Israël, sera sauvé. Qu'a dit l'ange Gabriel? Ô gloire! Pour que les transgressions d'Israël prennent fin. Je suis venu te dire, Daniel, qu'il y aura un moment où les transgressions d'Israël seront terminées. Dieu sectionnera de l'olivier franc cette branche sauvage qui avait été hantée, et il la remplacera par cette vraie branche produite par l'olivier franc. Quand je vois ces pauvres et misérables juifs qui errent de côté et d'autre, mon cœur est soulevé d'émotion et de compassion à leur égard. Je pense en effet que Dieu, dans sa grâce, a agi de la sorte pour que moi, je puisse être sauvé. Dieu les a aveuglés, afin qu'ils ne puissent voir leur propre Messie et ses œuvres. Il les a rendus sourds pour qu'ils ne puissent entendre sa parole, de peur qu'ils ne se convertissent. Dans Jean chapitre 12, verset 37, il est écrit, « Malgré tant de miracles que Jésus avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. » Et plus loin, dans Jean chapitre 12, verset 40, nous lisons, « Il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. » Oui, afin que nous ayons une chance d'être sauvés, Dieu a baissé le rideau devant les yeux de ses propres enfants. Il a détourné ses propres enfants de la table. Il a éloigné d'eux l'esprit, afin que nous, païens, nous puissions obtenir la vie éternelle. Oui, le libérateur de Romains, chapitre 11, verset 26, viendra un de ces jours sur le mont Sion, sur le mont des Oliviers. À ce moment, ils reconnaîtront leur Messie. Tout Israël saura que c'est bien lui. Le temps des gentils sera alors terminé. En un seul instant, cette branche qui avait été hantée sur le tronc de l'olivier franc sera brisée, et Dieu récoltera les fruits qu'elle aura portés, et le bois mort sera jeté. Dans Romains 11, versets 16 à 20, Jésus a dit, « Si ses racines sont saintes, le fruit produit par cette racine sera également un fruit saint. Si cette racine est Jésus-Christ, qui est à la fois la racine et le rejeton de David, si cette vie est en lui, Jésus, elle est montée au travers de la génération juive, puis elle fut suspendue, et ils ont été aveuglés, afin que nous, nous puissions voir, et que nos vies aient pour modèle cette branche bénie. Oh oui, mes frères, il en est bien ainsi. Dieu avait ses raisons pour agir ainsi, et aveugler leurs yeux, afin que nous, païens, nous puissions avoir les yeux ouverts. Mais Paul, dans Romains chapitre 11, versets 20 à 21, met en garde les païens en leur disant, « Fais attention à ta conduite, car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. » Et pendant ce temps, que faisons-nous? Nous tournons en rond et nous disons, « Je suis presbytérien, je suis baptiste, je suis pentecôtiste, je suis méthodiste. » Cela ne signifie rien pour Dieu. Il faut que vous soyez nés de nouveau, nés de ce glorieux Saint-Esprit qui monte de la racine. Le libérateur ne parle pas des païens, mais il vient pour mettre fin à la transgression, en finir avec elle, avec la transgression d'Israël. Transgresser signifie contrevenir à un ordre, à une loi. Une transgression contre moi, c'est une attaque contre moi, c'est mal agir envers moi. Israël a mal agi envers Dieu. Que va-t-il se passer durant cette 70e semaine de Daniel? Dieu va mettre fin à la transgression d'Israël. En finir avec la transgression d'Israël consistera à détourner l'impiété de Jacob, et alors Israël naîtra de nouveau. Tous recevront le Saint-Esprit. Et maintenant, nous arrivons au deuxième point. Voyez-vous, je ne veux pas faire une prédication, je veux simplement m'entretenir avec vous sur ces sujets, afin que vous puissiez les connaître à fond. Prenez donc un crayon et du papier, et au fur et à mesure, vous écrirez l'essentiel des explications. Quand nous allons aborder la 70e semaine, nous examinerons l'épouse, les sceaux, les fléaux, et nous saurons à quel endroit nous nous trouvons actuellement. Très bien. Le deuxième point, concernant la visite de Gabriel à Daniel, c'est mettre fin au péché. C'est la deuxième raison de la visite de Gabriel. Où Israël pécha-t-il? Où se passa ce péché de première grandeur? À quel endroit se sépara-t-il de Dieu? Écoutez maintenant attentivement. Dans le chapitre 27 de Matthieu, nous voyons où Israël commit son erreur qui lui fut fatale. C'est là qu'il a accompli son dernier péché qui a déterminé la misérable condition du peuple juif depuis près de 2000 ans. Lisons Matthieu chapitre 27, versets 21 à 25. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit, « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils répondirent, « Barabbas. » Rappelez-vous que Barabbas représente Israël. Pilate leur dit, « Que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle le Christ ?» Écoutez bien leur réponse. Tous répondirent qu'il soit crucifié. Vous vous souvenez de la leçon de ce matin? Daniel avait parlé de ce Messie qui devait être tranché, supprimé, mais pas à cause de ses crimes, car il n'avait jamais rien fait de mal. Qu'il soit crucifié. Le gouverneur dit, mais quel mal a-t-il fait? Et ils crièrent encore plus fort, qu'il soit crucifié. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains, en présence de la foule et dit, je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. Et tout le peuple répondit, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Voilà leur erreur. Voilà leur péché. C'est à Jérusalem, devant le tribunal du gouverneur Pilate, qu'Israël a commis son dernier péché. Notre Seigneur ne pouvait rien faire d'autre que de les pardonner. Il savait que le peuple juif aurait les yeux aveuglés, afin que nous, païens, nous puissions entrer dans le royaume de Dieu. C'était comme si ses propres enfants avaient réclamé son propre sang. Ils étaient déjà aveugles. C'est la raison pour laquelle il demanda à son père de leur pardonner. Pardonne-leur, Père, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc chapitre 23, verset 34. Ils étaient aveugles. Pour notre salut, ils avaient été aveuglés. C'était le résultat de leur incrédulité. Mais quand ils le verront à son retour, oh, amen, mettre fin au péché, que cela signifie-t-il? Qu'est-ce que le péché? Le péché, c'est l'incrédulité. Ils n'ont pas cru qu'il était le Messie. Ils ne pouvaient pas voir en lui le Messie attendu, bien qu'il ait réalisé et accompli devant eux les signes que le Messie devait accomplir suivant les Écritures. Ils ne pouvaient les voir, car ils étaient aveugles. Aussi, quand vous voyez des gens dire, « Oh, je ne crois pas en la guérison divine, je ne la vois pas, je ne peux pas voir non plus le baptême du Saint-Esprit », ne leur en voulez pas, amis, ils sont aveugles. Ils disent, « Je ne peux voir le message de sa venue, je ne peux voir ce baptême de l'Esprit, je ne peux voir cette semence du serpent, je ne peux voir toutes ces balivernes ». Ils sont aveugles, ils ne peuvent le comprendre, priez simplement pour eux, c'est tout. Mais quand ils le verront à son retour, leur incrédulité disparaîtra. Vous qui prenez des notes, lisons dans la Genèse, au chapitre 44, à partir du verset 27. Il s'agit de Joseph, et Joseph est un type parfait de Christ. Combien parmi vous le savent-ils? Merci. Il était haï de ses frères, pourquoi? Parce qu'il était spirituel, il avait des visions, il interprétait les songes, il était un homme spirituel parmi ses frères, et il le haïssait, mais son père l'aimait. Ainsi Jésus était haï par les églises dénominationnelles, mais il était aimé de son père Dieu. Ses frères disaient de lui, c'est un diseur de bonne aventure, c'est un démon. Vous vous souvenez de la façon dont ses frères le surnommaient, voici le songeur qui arrive. Ils vendirent Joseph au prix que Jésus fut vendu par Judas, 30 pièces d'argent. Ils le précipitèrent au fond d'un puits. Puis ils s'en allèrent dire à leur père qu'une bête sauvage l'avait déchiré, qu'il était mort. Joseph fut retiré du puits. Christ fut mis au tombeau et il ressuscita. De là, Joseph occupa la place la plus élevée pouvant se trouver sur la terre. Amen. Joseph se trouvait à la droite de Pharaon et Jésus fut élevé à la droite de la puissance de Dieu. Jésus, avant son élévation, passa au travers de la tentation. Je crois que c'est l'évangéliste bien connu, Billy Sunday, qui a dit, « Au jour de la crucifixion de Jésus, il y avait 1 million d'anges se tenant sur chaque arbre autour de la place. Ils dirent à Jésus, « Lève seulement ton petit doigt et nous allons tout changer ici. » Jésus-Christ ne pouvait pas le faire. Le souverain sacrificateur Caïphe, le président du Sanhédrin, disait, « Qu'il se sauve lui-même puisqu'il a sauvé les autres. Eux ne peuvent pas le sauver. » Il ignorait qu'il exécutait un contrat. S'il s'était sauvé lui-même, il n'aurait pas pu sauver les autres. Aussi se sacrifia-t-il pour les autres. De même, Joseph, avant son élévation auprès de Pharaon, fut tenté et mis en prison malgré son innocence. Le général Potiphar, chez qui il servait comme esclave, avait une jolie femme. Pendant l'absence du mari, sa femme fit appeler Joseph et essaya de le séduire. Celui-ci, qui était juste devant Dieu, refusa de céder. Vous connaissez la suite. Je vais maintenant m'adresser à vous, les femmes. Voyez-vous, la femme est un vase fragile et faible. Je sais qu'il ne peut y avoir un homme mauvais s'il n'y a pas d'abord une mauvaise femme. Mais vous qui savez, frère, être un enfant de Dieu, si vous prenez avantage d'une femme, honte à vous. Quoi qu'elle puisse faire, elle est un vase plus faible et vous le savez. Vous la voyez agir malhonnêtement, prenez-la par la main et parlez-lui comme à une sœur. Vous êtes un enfant de Dieu, n'abusez pas de sa faiblesse. Regardez Joseph, qu'il soit un exemple pour vous. Quand la femme de Potiphar, cette belle femme honorée de haut rang, la plus respectée de la région, appela Joseph auprès d'elle, il s'en détourna et voulut sortir. Elle finit par lui prendre son vêtement. Quand son mari revint chez lui, elle lui raconta un mensonge, disant que Joseph avait voulu abuser d'elle et que dans la résistance qu'elle lui opposa, il avait abandonné son vêtement dans sa chambre. C'est pour cela que Joseph fut emprisonné dans le cachot. Mais dans le cachot, Dieu était toujours avec lui. Où qu'on puisse le mettre, Dieu était avec lui. Joseph était un type du fils de la prospérité. Tout ce qu'entreprenait Joseph réussissait et prospérait. C'est pourquoi, lorsque Jésus-Christ reviendra dans le millénium, le désert refleurira comme une rose. Tout ce qu'il fait prospérera. Il est le fils de la prospérité. Où que vous mettiez Joseph, il est toujours béni. Et où que Jésus se trouve, il bénit toujours. Aussi, gardez-le dans votre cœur et soyez bénis. Nous remarquons que deux hommes se trouvaient avec Joseph dans le même cachot. L'un fut perdu et l'autre fut sauvé. Jésus-Christ sur la croix avait deux bandits à ses côtés. L'un fut perdu et l'autre sauvé. Et quand il fut élevé, il fut placé à droite de Dieu. Quand Joseph le fut, c'est à la droite du Pharaon qu'il fut placé. Pour parler au Pharaon, il fallait d'abord demander à Joseph sa permission. Et quand Joseph quittait le palais, les trompettes sonnaient. Il était précédé par un héros qui criait à la foule, « Mettez-vous à genoux, Joseph arrive. » Amen. Quand Jésus quittera son trône dans les cieux, les trompettes sonneront également, et tout genou fléchira, et toute langue confessera, Jésus vient, sûrement. Rappelez-vous Joseph, quand il fut rejeté par ses frères, que fit-il? Il épousa une femme païenne, une femme égyptienne, et quand Jésus fut retranché de ses frères juifs, il épousa une femme païenne, l'épouse de Christ, son Église. Quelques années plus tard, après la naissance d'Éphraïm et de Manassé, Joseph était chef de famille. Un jour, ses frères vinrent le visiter. Surveillez bien, nous connaissons cette petite chose au moment de leur retour en Israël. Pour ne pas être connu de ses frères, il se servit d'un interprète pour soi-disant comprendre l'hébreu, alors qu'il le connaissait parfaitement. Ses frères partirent sans l'avoir reconnu. Joseph était un prince puissant. En ce moment même, Christ visite les Juifs. Il guérit leur maladie et ils ne connaissent toujours pas ce qu'il est. Lisons Genèse chapitre 44 à partir du verset 27. Ton serviteur notre père nous a dit, vous savez que ma femme m'a enfanté deux fils. L'un étant sorti de chez moi, je pense qu'il a été sans doute déchiré car je ne l'ai pas revu jusqu'à présent. Il s'agissait de Joseph, celui-là même à qui il parlait. Si vous me prenez encore celui-ci et qu'il lui arrive un malheur, vous ferez descendre mes cheveux blancs avec douleur dans le séjour des morts. Le petit frère de Joseph, Benjamin, était descendu en Égypte avec ses grands frères. Savez-vous ce que représente Benjamin? C'est le nouveau groupe d'authentiques et véritables juifs qui se rassemblent actuellement en Israël et qui fourniront les 144 000. C'est de cette nouvelle race de juifs qu'ils sortiront, et non pas de ces juifs crochus qui habitent Wall Street à New York, de ces pourvoyeurs de canons. Non, ceux-là ne sont pas de véritables juifs. Ces derniers sont des petits Benjamins venant de ci, de là pour rejoindre Israël et qui n'ont jamais entendu la parole de Jésus-Christ. Nous lisons dans Genèse chapitre 44 versets 21 et 22, « Tu as dit à tes serviteurs, faites-le descendre vers moi et que je le voie de mes propres yeux. Nous avons répondu à mon Seigneur, l'enfant ne peut pas quitter son père, car s'il le quitte, son père mourra. » Reprenons la lecture, Genèse 44, à partir du verset 30. « Maintenant, si je retourne auprès de ton serviteur, mon père, sans avoir avec nous l'enfant, à l'âme duquel son âme est attachée, il mourra. » La vie même de Dieu est liée, attachée à Israël. Dieu s'est marié avec lui. Dieu voulant, nous en verrons plus loin la confirmation. Dieu est marié avec Israël. Sa vie est attachée à lui, comme moi-même je suis attaché à Madame Branham ici même. C'est ma femme, et chacun de vous est lié à sa femme. Votre vie est enveloppée en elle. Dieu est marié avec Israël. Et Jacob dit en parlant de Benjamin, « Ma vie est enveloppée et accrochée dans cet enfant. » Reprenons le verset 30 de Genèse 44. « Maintenant, si je retourne auprès de ton serviteur, mon père, sans avoir avec nous l'enfant. » Joseph voulait garder Benjamin avec lui, nous connaissons l'histoire. Il mourra, son papa, il mourra en voyant que l'enfant n'y est pas. Et tes serviteurs feront descendre avec douleur dans le séjour des morts les cheveux blancs de ton serviteur, notre père. Car ton serviteur a répondu pour l'enfant en disant à mon père, « Si je ne le ramène pas auprès de toi, je serai pour toujours coupable envers mon père. » Permets donc, je te prie, à ton serviteur de rester à la place de l'enfant comme esclave de mon Seigneur et que l'enfant remonte avec ses frères. Comment pourrais-je remonter vers mon père si l'enfant n'est pas avec moi? Ah, que je ne vois pas l'affliction de mon père. Voyez-vous cette scène? Il se tient devant Joseph, son frère, et il ne l'a pas reconnu. Oh, frère, attendez que le début du millénium se manifeste. Voyez comme il traite Joseph de Seigneur et comment il se confesse à lui. Il plaide, il offre sa propre vie. Surveillez particulièrement maintenant le chapitre 45 de la Genèse. Écoutez attentivement, ne le manquez pas. Commençons au premier verset. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Frère, cela signifie que c'est le moment où il sera mis fin au péché, où l'incrédulité disparaîtra. Il s'écria, faites sortir tout le monde. Et il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Qu'en est-il? Même la propre femme de Joseph est retournée dans son palais. Oh, il en sera de même pour l'épouse de Christ, quand celui-ci retournera sur terre pour se faire reconnaître. Il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Voici maintenant un type de Christ rencontrant les Juifs. Ce qu'il sait, c'est qu'il les a rendus aveugles pour que nous ayons la possibilité d'être sauvés. Mais quand il reviendra à eux, le péché d'Israël sera ôté. Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph. Que pensez-vous que dira Jésus? Je suis votre Messie. Je suis celui que vous avez crucifié. » Mon père vit-il encore? Mais ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient troublés en sa présence. Oh, je dois m'arrêter ici une minute. Prenons maintenant le chapitre 12 de Zacharie et le 10e verset. Peut-être pensez-vous que je vous tiens trop longtemps et que je commence à prêcher. Je ne le pense pas. Je désire tellement que vous soyez imprégnés du sujet. Zacharie a parlé ici du reste d'Israël, du siège de Jérusalem, de la bête et des armées qu'il a chassées. La fin approche. Le millénium est sur le point de départ maintenant. Zacharie, chapitre 12, versets 10 à 14. Alors, dit l'Éternel, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé, et ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique, ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Écoutez, quel deuil il y aura quand Jésus se présentera devant eux pour se faire connaître, comme Joseph se présentant devant ses frères. Écoutez bien. En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem, comme le deuil d'Adadrimon dans la vallée de Megiddo. Le pays sera dans le deuil, chaque famille séparément, la famille de la maison de David séparément et les femmes à part, la famille de la maison de Nathan séparément et les femmes à part, la famille de la maison de Lévi séparément et les femmes à part, la famille de Shimei séparément et les femmes à part, et toutes les autres familles, chaque famille séparément, et les femmes à part. Oh, combien ils auront honte d'eux-mêmes quand ils se tiendront là et qu'ils verront que celui-là même qu'ils ont crucifié dans la nuit se tient là, leur propre Joseph, si précieux. Combien ils se lamenteront. Ils lui diront, « Où donc as-tu reçu ces blessures, ces cicatrices ?» Il répondra, « Dans la maison de mes amis. Vous comprenez ce que je veux dire. Pour mettre fin au péché. » À l'incrédulité, voilà pourquoi Jésus revient. Dans cette 70e semaine de Daniel, Jésus descendra à Jérusalem pour mettre fin au péché, pour l'exterminer et pour en débarrasser l'humanité. Nous avons vu les deux premiers objectifs prédits par Gabriel. Premièrement, faire cesser les transgressions. Deuxièmement, mettre fin au péché. Et maintenant, examinons le troisième objectif, expier l'iniquité. J'avais encore noté 6 autres passages de l'Écriture, mais je ne m'y référerai pas car il fait trop chaud et je ne veux pas abuser de votre temps. Je veux vous instruire autant que je le peux, mais je ne veux pas vous retenir trop longtemps. Très bien. Qu'est-ce que l'iniquité? C'est l'action de mal agir. Comme ce fut le cas quand Israël réclama la crucifixion de Jésus-Christ au Golgotha. Jésus apportera la réconciliation, mais cela ne concernera pas les Juifs. Pourquoi? Parce qu'ils étaient aveugles, ils ne pouvaient pas voir. Pourquoi étaient-ils aveugles? Parce que Dieu lui-même les avait aveuglés. Vous pouvez dire, eh bien, peut-être aujourd'hui, parce que je suis aveugle. Vous êtes alors volontairement aveugle. Et il n'y a aucune réconciliation pour vous. En effet, Jésus a dit dans Jean 8, 24, « Si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » L'iniquité, c'est quelque chose de mal que vous avez fait et que vous n'auriez pas dû faire, sachant que c'était mal. Écoutez bien, si je conçois l'iniquité dans mon cœur, Dieu ne m'entendra pas. Maintenant, lisons Zacharie chapitre 13 à partir du premier verset. En ce jour-là, une source sera ouverte pour la maison de David et les habitants de Jérusalem, pour le péché et pour l'impureté. Il y aura une maison ouverte. Continuons, nous pourrons lire tout ce chapitre, mais ici j'ai une note qui indique de lire du verset 6 au verset 10. Et si on lui demande d'où viennent ces blessures que tu as aux mains, il répondra, c'est dans la maison de ceux qui m'aimaient que je les ai reçues. Épée, lève-toi sur mon pasteur, et sur l'homme qui est mon compagnon, dit l'Éternel des armées, frappe le pasteur, et que les brebis se dispersent, et je tournerai ma main vers les faibles. Maintenant, Jésus cite les Écritures, frappe le pasteur et disperse les brebis. Mais notez bien le paragraphe suivant, mais je tournerai ma main vers les faibles, les petits. Quoi? Voilà le groupe de Benjamin dont il est question maintenant. Je tournerai ma main vers les petits. En premier lieu, Israël a frappé le berger, et toutes les brebis ont été dispersées à travers le monde entier. Mais Dieu a dit dans Zacharie 13:7, « Je tournerai ma main vers les petits dans les derniers jours. Israël sera sauvé, chacun pour sa part. » Lisons maintenant le chapitre 66 d'Ésaïe, pendant quelques instants. Si vous voulez le lire en entier, ce sera parfait. Vous verrez ce que Dieu dit sur le salut d'Israël. Et combien il faudra de temps pour le sauver. Notez sa rapidité foudroyante. Voici Ésaïe 66, verset 8. Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais rien vu de semblable? Une nation est-elle enfantée d'un seul jour? À peine en travail, Sion a enfanté ses fils. Aussitôt que Sion a vu que c'était son Messie, en un seul jour, il naquit de nouveau. Jésus vient pour faire la réconciliation pour les péchés et pour apporter la réconciliation pour l'iniquité, l'impureté. Oh, les Juifs avaient mal agi, ils avaient fait le mal, ils obtenaient la réconciliation avec Dieu et leurs iniquités étaient effacées. Venons-en au quatrième objet de la visite de Gabriel. Apporter la droiture éternelle, une vie droite devant l'Éternel. Après avoir mis fin au péché, après avoir apporté la réconciliation, Jésus met fin aux transgressions d'Israël afin qu'ils vivent éternellement, conformément aux enseignements de Dieu. Notez bien ceci avant que je vous parle de la femme et du dragon d'Apocalypse 12. Quand la transgression d'Israël prend fin, Satan, qui est notre accusateur à tous, Satan est lié pour 1000 ans dans l'abîme sans fin. Alors, que se passera-t-il sur la terre? Une vie parfaite selon Dieu et qui durera éternellement, quelque chose qui n'aura pas de fin. Pourquoi? Parce que l'iniquité sera bannie de la terre. Relisons pendant un instant Apocalypse chapitre 20, les versets 1 à 3. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon et le serpent ancien qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît pas les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Jésus-Christ apporte avec lui la droiture pour l'humanité. Satan est lié pour 1000 ans. Maintenant, nous allons voir pourquoi Satan est lié et nous rendre compte de ce qui va suivre aussitôt après la disparition de Satan de la terre. Lisons le prophète Habacuc, le chapitre 2 et le verset 14. Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. En d'autres termes, dès que l'ennemi est mis hors d'état de nuire, il n'y a plus de péché, et la connaissance du Seigneur recouvre l'étendue de toute la terre, comme les eaux recouvrent le fond des mers. Amen. Gloire à Dieu. Jésus revient, frère. Il revient. Les femmes seront transformées en belles dames et les hommes en gentilshommes. Amen. Comme le dit le cantique, quand la connaissance du Seigneur remplira et la terre et la mer et les cieux, comme mon cœur soupire et crie pour sa venue, la venue de ce jour de douce délivrance, quand notre Seigneur Jésus reviendra sur cette terre. Amen. Très bien. Maintenant le millénium est devant nous. C'est alors que la cité va être bâtie. J'ai encore 6 écritures à vous indiquer. Dépêchons-nous. 5e objet de la visite de Gabriel, c'est celui-ci. Sceller la vision et la prophétie. L'ange vient pour sceller la vision et la prophétie. Une portion de la bande magnétique manque en anglais. Note de l'éditeur. Oh, excusez-moi, je ne voulais pas dire cela. Excusez-moi, ce n'est pas ce que je voulais dire, voyez-vous. Cet homme a dit, vous voyez ici que les visions et les prophéties étaient toujours réservées à l'Église juive. Et poursuivant, il ajouta, cela signifie que depuis le temps de Daniel, il n'y aura plus ni vision ni prophétie. Et cet homme conclua en disant, tous ceux qui aujourd'hui se vantent d'avoir des visions ou des prophéties annoncées sont du diable, car depuis Daniel, les visions et les prophéties venant de Dieu sont terminées. Je répondis à ce frère qu'il y eut des douzaines de prophètes après Daniel. Il y a eu Jean-Baptiste, il y a eu Jésus-Christ, il y a eu les prophètes du Nouveau Testament, il y a eu des visions, il y a eu des anges. Comment peut-il exister un homme sensé pour proférer de nos jours de telles contre-vérités? Mais voyez-vous, mes frères, il y a à la base de ces manœuvres un but intéressé. On cherche ainsi à créer une diversion parmi les gens pour les pousser à constituer une petite doctrine religieuse, une toute petite chose qui puisse grandir et devenir une vérité pour le peuple. Et si ce peuple ne possédait pas déjà le Saint-Esprit, il pourrait être trompé par tout cela. Maintenant, ne nous laissons pas arrêter par ce que peut dire un homme. Il n'existe aucune écriture prouvant cela. Comment pourrais-je répondre à cela? Eh bien, tâchons de découvrir ce que signifie exactement ce mot « scellé ». Remarquez, Jésus vient pour faire cela, pour sceller la vision et la prophétie. Revenons au livre de Daniel, au passage où nous en étions, au chapitre 12. À la maison, vous lirez tout le chapitre. Lisons ici les versets 1 à 4 du chapitre 12 de Daniel. « En ce temps-là, à la fin des temps, se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Ceci a lieu quand l'Antichrist, le cavalier du premier sceau, fait son entrée sur un cheval blanc. » Apocalypse chapitre 6, verset 2. L'époque dont il est fait mention ci-dessus n'est pas celle où le général romain Titus, en l'an 70, s'empara de Jérusalem. En ce temps-là, la fin de l'âge, ceux de ton peuple qui seront inscrits dans le livre de vie seront sauvés. Alléluia! Ton peuple, Israël, sera écrit dans le livre. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Combien y aurait-il eu d'Israélites de sauvés s'il s'agissait de l'époque de Titus? Voyez-vous, il s'agit bien ici de la fin des temps, du temps de la résurrection. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Et maintenant, écoutez bien, voilà la signification véritable de l'expression sceller la vision et la prophétie. Toi, Daniel, tiens secret de ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Qu'est-ce que c'est? Oh, alléluia! Avez-vous compris, ma petite classe, la révélation de Jésus-Christ donnée par Gabriel à Daniel, celle de sa puissance, de son retour et de la fin des temps, fut scellée par Jésus-Christ depuis cette lointaine époque jusqu'à nos jours. C'est ce qu'il vient faire. Tout cela est resté caché à tous ses étudiants. Il n'est pas étonnant qu'il veuille appliquer à tous ses anciens prophètes la non-authenticité de leur vision et de leur prophétie. Cela ne tient pas debout, mais cette vision a été scellée jusqu'à ce jour, et c'est en cela que je place ma confiance en Dieu pour qu'il me révèle ces 70 semaines de Daniel. Amen. Gabriel a dit à Daniel, scelle-la jusqu'à la fin des temps, mets un point final à ses paroles, et scelle le livre jusqu'à la fin des temps. Que fit-il pour sceller la vision et la prophétie? Daniel a prophétisé ces choses, il les a vues dans une vision, l'ange est venu pour sceller la vision et sceller la prophétie, ils peuvent la lire, mais ils ne peuvent pas la comprendre, jusqu'à la fin des temps. Qu'est-ce que la fin des temps? C'est la fin de la 70e semaine de Daniel, quand le prince, l'antichrist, sera révélé. À ce moment-là, il se fera lui-même Dieu. Comment pouvons-nous savoir que cela est scellé jusqu'à ce temps-là? Daniel vient de nous le montrer dans le dernier chapitre de son livre, le chapitre 12 de Daniel. Et la sœur Simpson m'a dit cet après-midi, « Frère Branham, je viens de lire le livre entier de Daniel et je n'en sais pas plus maintenant que lorsque j'en ai commencé la lecture. Sœur Simpson, je vous vois assise là-bas. Sachez que je ne laisse jamais rien à la traîne. J'ai gardé ma sérénité car j'ai pensé que je savais et que je devais m'en sortir. Mais la vision que Daniel a vue là-bas auprès de la rivière fut scellée jusqu'à la fin des temps. Permettez-moi de continuer ma lecture, Daniel chapitre 12, versets 4 à 10. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Et moi, Daniel, je regardais, et voici deux autres hommes se tenaient debout, l'un en deçà du bord du fleuve et l'autre au-deçà du bord du fleuve. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, « Quand sera la fin de ces prodiges ?» Maintenant, écoutez bien. Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche. Et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, deux temps et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. C'est le moment où celui-ci a rompu l'alliance qu'il avait faite avec les Juifs au milieu de la semaine. Ces choses-là seront accomplies à ce moment-là, elles seront terminées. J'entendis, mais je ne compris pas, et je dis, « Mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses ?» Il répondit, « Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Oh, n'oubliez pas cela. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de la sagesse comprendront. » Le message du temps. Le message du temps de la fin le révélera, le dernier âge de l'Église. Oh, gloire à Dieu, nous y voici. Je suis tout ému quand j'y pense. Le mystère, les choses que l'Église du monde regarde avec mépris en disant « c'est un non-sens ». Le mystère de Jésus-Christ. Qui est-il? Il n'était pas un deuxième ou une troisième personne, mais il est la personne de Dieu. Tous ces autres mystères de Dieu seront révélés. Parce que c'est écrit ici, dans ce livre, la Bible, ils seront révélés à la fin du temps de cette génération. Ces révélations ne pourront être vues dans les séminaires, les écoles bibliques et dans les dénominations de la même façon que les Juifs ne pouvaient rien voir concernant le Messie dans Jésus-Christ. Rien d'étonnant à ce que tous ces gens pensent que nous sommes des fous. Rien d'étonnant à ce qu'ils ne puissent comprendre que nous ne gloussions pas avec eux. Pourquoi ? Parce qu'il y a une puissance et une vision derrière cela, une parole de Dieu qui a été révélée pour faire partie de l'épouse en vue de l'enlèvement et le retour à la maison. Oui, beaucoup courent de ci, de là, et la connaissance augmentera, certainement. Et maintenant, il y a une autre chose qui sera connue. Regardez aux églises d'aujourd'hui, nous y voilà. J'espère que je ne blesserai personne, mais il faut que je le dise. En ce jour se lèvera un antichrist. Rappelez-vous, quand nous avons étudié les sept sceaux, cet antichrist chevauchait dès l'ouverture des sceaux et durant les quatre premiers sceaux. Daniel, dans Daniel 9, 26, 27, parle du prince qui viendrait de ce dévastateur qui provoquera l'abomination de la désolation. C'est Rome personnifié en Titus. Et en ce jour, c'est un prince venant de Rome qui le fera. Et dans les derniers jours, il se révélera, écoutez bien, comme se faisant Dieu. Auparavant, Jésus, loin de Daniel 9, 25, qui voulait apporter la réconciliation à son peuple, fut retranché. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 7 à 11, le Saint-Esprit nous met en garde. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. C'est Paul qui parle, inspiré par le Saint-Esprit. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. De qui est-il parlé ici? Du Saint-Esprit, c'est lui qui le retient encore et qui disparaîtra. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Quand cela se produira-t-il? Au moment même où le Saint-Esprit est enlevé de la terre, il emporte avec lui l'épouse. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Nous sommes la plus grande église, nous avons ceci, nous possédons cela. Les églises sont déjà réunies dans un conseil mondial. Voyez-vous, nous sommes la plus grande église des prodiges mensongers. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Avez-vous bien saisi maintenant? Au moment où les sceaux de Dieu seront connus, l'effusion du Saint-Esprit révélera dans les derniers temps la signification de son esprit, de son nom, de sa grâce. Il dévoilera ses autres grands mystères qui doivent venir, les plans pour enlever son épouse. Et maintenant, abordons le sixième objet de la visite de Gabriel à Daniel. Sixièmement, oindre le plus élevé. Relisons Daniel chapitre 9 verset 24. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple, Israël, et sur ta ville sainte, Jérusalem, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et la prophétie, et pour oindre le Saint des Saints. Voilà les six objets de la visite de Gabriel. Et maintenant, oindre le plus saint. Il ne s'agit pas d'un homme. Jésus a déjà été oint depuis bien longtemps. Dans les évangiles, nous avons vu que Dieu avait oint Jésus du Saint-Esprit. Jésus allait de lieu en lieu pour faire le bien, guérir les malades. Jésus est déjà oint, puisqu'il est le Messie, le oint. N'est-ce pas vrai? Mais ici, à la fin des temps, il est parlé d'oindre le plus saint. Qu'est-ce que le plus saint? À mon point de vue, et je pourrais le prouver par les Écritures, il s'agit du tabernacle qui sera utilisé durant le millénium. Les chapitres 40 à 44 d'Ézéchiel ne concernent pas le monde actuel, mais la période du millénium uniquement. Quelqu'un d'entre vous savait-il cela? C'est dans le chapitre 43 d'Ézéchiel et du verset 1 à 6 que nous allons être éclairés au sujet du temple du millénium qui sera érigé sur cette terre quand la gloire du Seigneur le remplira. Lisons cette description du temple du millénium. Il me conduisit à la porte qui était du côté de l'Orient. Et voici la gloire du Dieu d'Israël s'avançait de l'Orient. Sa voix était pareille au bruit des grandes eaux, et la terre resplendissait de sa gloire. Cette vision était semblable à celle que j'avais eue lorsque j'étais venu pour détruire la ville. Et ces visions étaient semblables à celles que j'avais eues près du fleuve de Kébar, et je tombais sur ma face. La gloire de l'Éternel entra dans la maison par la porte qui était du côté de l'Orient. Alors l'Esprit m'enleva et me transporta dans le parvis intérieur, et voici la gloire de l'Éternel remplissait la maison. J'entendis quelqu'un qui me parlait depuis la maison, et un homme se tenait près de moi. Oignant ce temple pour le règne du millénium. Notez de quelle façon le temple était dédicacé du temps de Moïse, dans le Lévitique chapitre 8, verset 10. Oh, comme j'aime comparer ces écritures aux écritures. De votre côté, ne l'aimez-vous pas? Ainsi, vous pouvez vous faire une idée de ce que vous espérez, comparativement à ce que vous faites actuellement. Actuellement, vous pouvez constater que nous confirmons une écriture par une autre écriture. Lisons maintenant le Lévitique chapitre 8, verset 10. Moïse prit l'huile d'onction. Il oignit le sanctuaire et toutes les choses qui étaient et le sanctifia.
Il en fit sept fois l'aspersion sur l'autel, et éloignit l'autel et tous ses ustensiles et la cuve avec sa base, afin de les sanctifier. Il répandit de l'huile d'onction sur la tête d'Aaron et l'oignit afin de le sanctifier. Voilà comment Moïse, durant la traversée du désert, sanctifiait et oignait le tabernacle d'adoration pour les enfants d'Israël. Le tabernacle était oint d'huile. Revenons maintenant au deuxième livre des Chroniques, au chapitre 5 et au verset 13. Nous verrons quelle fut la dédicace qui fut prononcée quand le Saint-Esprit prit place dans le tabernacle. Notez bien ce qui va se passer à ce moment-là. 2 Chroniques, chapitre 5, versets 13 et 14. Et lorsque ceux qui sonnaient les trompettes et ceux qui chantaient, s'unissant d'un même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments, et célébrèrent l'Éternel par ses paroles, « Car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » En ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Dieu entra dans le sanctuaire qui venait d'être oint et consacré à Dieu, afin que le peuple puisse s'y rendre pour l'adoration. Gabriel ne parle pas d'une place sainte comme celle-ci, mais d'oindre la plus sainte des places. Nous notons que la Nouvelle Jérusalem est la place la plus sainte qui soit, et l'onction dont Gabriel parle sera donnée à la Nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de Dieu, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. L'onction sera au-dessus d'eux. Maintenant, quand Zorobabel dédicassa le nouveau temple reconstruit à Jérusalem, il n'y eut pas d'onction nouvelle. L'onction avait été donnée précédemment, avant la destruction par les Babyloniens. Zorobabel avait reçu instruction de le reconstruire, et il n'était pas nécessaire de l'oindre à nouveau. Une fois le temple oint, il l'était pour toujours. Mais quand Dieu élèvera le tabernacle du millénium, il oindra non pas ce saint, mais le plus saint. Mais quand le roi monte sur son trône pour 1000 ans, ô gloire ! Alors, les 8 objectifs de Gabriel seront accomplis. L'onction du plus saint sera le dernier événement qui se produira. Et quand le tabernacle est érigé, la première résurrection a déjà eu lieu. Les Juifs sont retournés dans la mère patrie. Christ et son épouse sont venus. Les 144 000 Juifs ont été scellés. Le millénium a commencé. Le lieu le plus saint, le plus saint des plus saints, sera alors oint. Le lieu le plus saint est un sanctuaire où Dieu vit au milieu des chérubins. À ce moment-là, Christ demeure dans le lieu le plus saint, et l'onction coule sur lui. On n'aura plus besoin de la lumière du soleil là-bas, car l'agneau qui se tient au centre de la cité sera la lumière. Le soleil ne se couchera jamais sur cette ville, comme ce vieil oncle Jim avait l'habitude de dire, il ne le fera jamais, car Christ sera cette lumière, lui, celui qui est oint. Le roi viendra, et il prendra possession de son trône, pour régner pendant 1000 ans. Lisons maintenant Jérémie chapitre 3, versets 12 à 17. « Va, crie ces paroles vers le septentrion et dis, « Reviens, infidèle Israël, dit l'Éternel. Je ne jetterai pas sur vous un regard sévère, car je suis miséricordieux, dit l'Éternel, et je ne garde pas ma colère à toujours. Reconnais seulement ton iniquité. Reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel ton Dieu. » Que tu as dirigé çà et là tes pas vers les dieux étrangers sous un arbre vert, et que tu n'as pas écouté ma voix, dit l'Éternel. C'est ce qu'ont fait de l'Est, de l'Ouest, toutes les nations. Écoutez bien le verset suivant. Revenez, enfants rebelles, dit l'Éternel, car je suis marié avec vous. Leurs yeux étaient aveuglés, parce que moi, l'Éternel, j'ai donné aux gentils une chance de salut, mais vous retournerez, car je suis marié avec vous. Je vous prendrai un d'une ville, deux d'une famille. C'est-à-dire, non pas tous ceux qui s'appellent juifs, mais seulement ce petit groupe élu pourra entrer et être enlevé. Ce sera ce petit Benjamin qui est descendu vers Joseph, ce petit groupe tiré de chaque nation, un de cette ville, deux de cette famille. Et il, je vous ramènerai dans Sion. Je vous donnerai un berger selon ton cœur, et il vous paîtra avec intelligence et avec sagesse. Et lorsque vous aurez multiplié et fructifié dans le pays, en ces jours-là, dit l'Éternel, on ne parlera plus de l'arche de l'alliance de l'Éternel, elle ne viendra plus à la pensée, on ne se la rappellera plus, on ne s'apercevra plus de son absence et l'on n'en fera point une autre. En ce temps-là, on appellera Jérusalem le trône de l'Éternel, car lui-même sera là. Toutes les nations s'assembleront à Jérusalem au nom de l'Éternel et elles ne suivront plus les penchants de leur mauvais cœur. Tout cela se passe quand la cité de Jérusalem est ointe. Dans Apocalypse, au chapitre 21, nous avons la description de cette nouvelle Jérusalem. Les portes ne seront jamais fermées durant la nuit, car la nuit n'existera pas en ce lieu. Tous les rois de la terre y apporteront leur gloire et leurs hommages. La muraille sera en jaspe. Il y aura 12 portes constituées chacune d'une seule perle. On n'aura pas besoin de chandeliers là-bas. Il n'y aura plus la lumière du soleil, car c'est l'agneau du milieu de la cité où il se tient qui servira de flambeau, et il conduira son peuple dans la vie éternelle. Il y aura 2 arbres, l'un sur une rive du fleuve et l'autre sur l'autre rive. Ils porteront la guérison pour le peuple. C'est cela. La ointe, celle qui est ointe, viendra, cette cité céleste venant de Dieu et descendant avec lui des cieux vers la terre. Examinons maintenant ce qui va se passer à cette époque-là. Oh, n'aimez-vous pas tout cela? C'est dans le chapitre 65 d'Ésaïe que nous allons l'apprendre. Demandez-vous, amis pécheurs, si vous pouvez courir le risque de manquer cela. Ceci se passe durant le temps du millénium, quand le plus saint a reçu l'onction. Lisons donc Ésaïe 65 à partir du verset 17. « Car je vais créer de nouveaux cieux et de nouvelles terres. On ne se rappellera plus les choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer, car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Qu'est-ce que l'onction, si ce n'est la joie du Seigneur? Le roi sur le trône, la majesté royale du trône, le trône éternel et le peuple éternel possédant une vie éternelle dans une cité éternelle. Oh! On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui n'accomplissent leur jour, car l'enfant qui mourra à 100 ans sera jeune. Et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Ils bâtiront des maisons et les habiteront, ils planteront des vignes et en mangeront le fruit, ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Cela veut dire qu'à votre mort, votre fils prendra votre place. Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit, car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres, et mes élus jouiront longtemps de l'œuvre de leur main. Ils ne travailleront pas en vain, et ils n'auront pas des enfants pour qu'ils soient affligés, car ils formeront une race bénie de l'Éternel, et leurs enfants seront avec eux. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai, « Oh, cette glorieuse onction est derrière les chérubins. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Le loup et l'agneau paîtront ensemble, le lion comme le bœuf mangera de la paille, et le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. » Pouvez-vous manquer cela? Non! Lisons encore Ésaïe chapitre 11, versets 1 à 9. Écoutons ce qu'il dit après avoir vu quelle serait la conduite des femmes dans les derniers jours. « Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. » C'est Jésus-Christ. « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité, et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte, et le lion comme le bœuf mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'onde de la vipère, et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Tout cela se passera dans la nouvelle Jérusalem. Le rameau dont il est parlé dans Ésaïe chapitre 11 verset 1 concerne la branche de David, David est à la fois la branche et le rejeton. Après cela, l'épouse apparaît. Après les 70 semaines de Daniel, l'épouse apparaît dans Apocalypse 19 au verset 7 et 8. Elle arrive avec son époux, le puissant roi. Oh, mes amis, je ne sais pas si nous pourrons aller jusqu'au bout. Continuons. L'épouse arrive à ce moment-là, après le début du millénium. Alors le Christ arrive avec son épouse. Lisons Apocalypse chapitre 19 versets 1 à 16. Après cela, c'est-à-dire après la tribulation, après les trois fléaux, après les sept sceaux, après les sept fléaux, après la mise au cachot de Satan, après le début du millénium, faites attention. Après ces choses, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité, et il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. » Et ils dirent une seconde fois « Alléluia, et sa fumée monte au siècle des siècles. » Il s'agit de la vieille église prostituée. Et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant « Amen, Alléluia ». Et une voix sortit du trône disant « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. » Et j'entendis, comme une voix d'une foule nombreuse, « Vous voilà, épouse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de fortes nerfs, disant « Alléluia ». C'est l'épouse qui est là, après avoir été enlevée à la fin d'Apocalypse chapitre 3. Car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Le mariage de l'agneau se produit à ce moment-là. Voici venir l'épouse. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Les voici tous les deux, épouse et époux. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et je tombai à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et il combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, et sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il était couronné, le roi des rois. Il avait un nom écrit, que personne ne connaît, si ce n'est lui-même, et il était revêtu d'un vêtement trempé dans le sang. Son nom est la parole de Dieu. Jean chapitre 1, verset 1-14. Au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole fut faite chair, et elle habitait parmi nous. Qui était-ce? C'était Jésus, et son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc et pur. Ô gloire, le voici qui vient. Et de sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Qu'était-ce? Son peuple venait de le couronner Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Il revenait à son temple sacré, loin dans la présence de Dieu pour vivre et pour régner durant le millénium avec son épouse. Amen. Elle était présente aux côtés du puissant roi pour prendre place avec lui dans le nouveau temple royal, recouvert d'onction. Maintenant, les 6 conditions de Apocalypse 6.1 à Apocalypse 19.21 sont réalisées. Pour terminer, sachons que c'est durant le temps de la grande tribulation que tous ces événements doivent survenir. Les 7 sceaux, les 7 trompettes, les 7 coupes, les 3 fléaux, la femme dans le soleil, la chute du démon et du dragon rouge sur la terre. Ne l'oubliez pas, tout cela se passera durant cette période. Le croyez-vous? Quel temps glorieux est réservé à ceux qui aiment le Seigneur. Je vous le dis, mes amis, il ne faut pas manquer cela. Ne le manquez pas, quoi que vous fassiez. Dimanche prochain, Dieu voulant, et avec son aide, je désirerais vous montrer où se trouve exactement chacun des 7 jours de la dernière semaine et quel est le jour dans lequel nous vivons. Nous sommes à la fin des temps. L'aimez-vous? Pouvez-vous risquer de manquer le ciel? Nous sommes à la fin des temps. Que va-t-il se produire maintenant? Quel sera le premier événement qui va se produire juste avant le retour de Jésus sur la terre? C'est l'enlèvement de l'épouse. Pensez-vous que Jésus descendra sur la terre pour se promener dans les cimetières, serrant les mains de grand-papa et de grand-maman? Pensez-vous qu'il nous parlera ici-bas, puis qu'il repartira vers les cieux? Non! Comment donc cela va-t-il se passer? Nous vous disons ceci par la parole de Dieu, suivant 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 15-17. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, ne devancerons pas ceux qui sont morts. Mais au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. En un clin d'œil, nous serons tous enlevés, et durant ce temps, ce sera la fin de l'âge de l'Église. Ici-bas, sur la terre, Dieu se tournera vers les Juifs et il s'occupera d'eux, de ceux qui se trouvent dans la mère patrie. Il y aura deux prophètes, Apocalypse 11, versets 3 et 4, qui pendant 3 ans et demi, sous l'onction de Dieu, visiteront Jérusalem. Je pense qu'il s'agit d'Élie et de Moïse. Ils apporteront de grands fléaux quand, au milieu de la dernière semaine de Daniel, le pacte conclu entre Israël et Rome sera rompu par ce dernier sous la direction de ce prince. Alors l'abomination commencera à s'étendre partout. Le dragon qui est Rome cherchera alors à noyer dans les flots d'eau qui jailliront de sa bouche le reste des gentils et les vierges folles qui voudront garder les commandements de Dieu. Il fera la guerre au reste de la semence de la femme qui, non enlevée, se tournera toujours vers Dieu. C'est Rome qui s'en chargera. Il se formera une confédération d'églises qui se grouperont et se consolideront. Les Juifs entreront dans cette confédération qui leur permettra d'adorer dans leurs propres églises, dans le « ainsi dit le Seigneur de la Bible ». Que sont ces Juifs aujourd'hui? Je viens de le saisir en ce moment même. C'est tout frais. Ils ont aujourd'hui une nation reconnue politiquement, n'est-il pas vrai? Mais ils ne possèdent pas encore leur temple d'adoration. Quand ce dernier sera rétabli, l'épouse sera partie. Dieu s'occupera des Juifs en tant que nation, et quand ils feront partie de cette confédération dirigée par Rome, l'accord sera rompu par Rome au milieu de la 70e semaine, et durant 3 ans et demi, ce sera l'abomination de la désolation qui s'étendra jusqu'à la fin des temps. Protestants et Juifs seront persécutés par Rome, et à ce moment-là, les deux prophètes se lèveront et ils maudiront la terre en décidant qu'il ne pourra pas pleuvoir pendant les jours de leur prophétie. Ils feront descendre le feu du ciel sur la terre et ils utiliseront toute autre sorte de fléau. Attendez seulement, nous aurons encore beaucoup à apprendre. Oh, quel grand Dieu est notre Dieu! Quel Père de miséricorde! Mes amis, laissez-moi vous dire ceci en tant que votre pasteur. Vous ne réalisez pas les privilèges dont vous êtes comblés. Vous ne les réalisez pas. Combien y a-t-il eu de grands hommes, de saints hommes, des milliers de martyrs qui sont morts dans le passé, des hommes remplis de l'Esprit-Saint qui auraient aimé assister au jour que nous vivons? Que vous et moi nous en rendions compte. Que verrons-nous encore? Que ferons-nous après cela? Nous devons nous rendre quelque part. Vous ne pouvez rester ici tout le temps. Vous pouvez tondre votre gazon, mais la semaine suivante, vous devrez recommencer. Vous pouvez élever vos enfants. Vous les nourrissez à midi, mais le soir, ils ont faim de nouveau. Vous leur donnez à manger, et le lendemain matin, ils ont l'estomac vide. Vous leur achetez une paire de chaussures, et si elles sont comme les miennes, au bout de 2 ou 3 mois, il faudra acheter une nouvelle paire. Il en est de même pour les vêtements. Voyez-vous, il n'y a rien d'inusable. Il n'y a rien de stable, rien ne peut durer. Écoutez ce cantique. Ne convoite pas les richesses vaines de ce monde qui dépérissent si rapidement. Bâtis ton espérance sur les choses éternelles, elles ne passeront jamais. Le temps est plein de visions fugitives, rien sur terre n'est immuable. Bâtissez vos espérances sur les choses éternelles, tenez ferme la main du Dieu qui ne change pas. Écoutez, quand notre voyage sera terminé, oh, il nous fera savoir quand ce sera le moment. Si nous avons été fidèles à Dieu, dans la gloire nous aurons une demeure belle et lumineuse. Il s'agit de la cité ouinte. Notre âme enlevée la verra. Tenez ferme la main du Dieu qui ne change pas. Ne convoite pas les vaines richesses du monde. Tiens ferme la main du Dieu qui ne change pas. pendant que nous inclinons nos têtes. Si vous n'avez encore jamais tenu sa main, ne voulez-vous pas venir le faire maintenant? Tenez ferme la main du Dieu qui ne change pas. Bâtissez vos espérances sur les choses éternelles. Tenez ferme la main du Dieu qui ne change pas. Jeune fille, maintenant vous êtes charmante, votre chevelure est saillante et vos joues sont roses. Mais savez-vous si demain tout ne sera pas fané? Pouvons-nous savoir si la semaine prochaine, les vers n'attaqueront pas ces jolies petites joues dans la tombe? Vous, mon frère, vous êtes fort, musclé, bien bâti, vous faites de grands projets, mais peut-être plus tard, peut-être demain, il en sera de même pour vous. Les vers vous réduiront en poussière. Bâtissez vos espérances sur les choses éternelles. Tenez ferme la main du Dieu qui ne change pas. Il y a maintenant 31 ans que je me tiens derrière ce pupitre. J'ai été témoin de spectacles glorieux, mais hélas d'autres infiniment tristes. Parmi les plus tristes spectacles auxquels j'ai assisté, je mentionnerai tout particulièrement des petits-enfants mourant de faim dans la rue ou des mamans mendiant un morceau de pain. Mais le spectacle le plus triste que j'ai jamais vu est de voir un homme, un être humain, qui désirerait être un enfant de Dieu et qui meurt sans avoir connu Dieu. Je me souviens d'une belle jeune femme d'environ 22 ans qui se tenait un soir à la porte de cette église, qui riait et qui se moquait de moi en disant « Je ne voudrais pas même que ma vache ait le genre de religion que vous avez. » Moins d'une heure plus tard, on m'appela d'urgence à l'hôpital. Cette jeune femme de foi catholique et gravement malade désirait absolument me voir en criant « Amenez ce prédicateur ici !» À mon arrivée, la vieille sœur m'accueillit en disant « C'est trop tard, frère Branham. Elle vient de mourir il y a 5 minutes seulement. » Je demandais à voir son corps. La sœur me disait encore « Elle cria après vous » et ses derniers mots furent « Cherchez ce prédicateur, le frère Branham. » Le mari se tenait auprès du lit et elle me dit « Dites une prière pour elle, dites une prière. » Je répondis « Maintenant, c'est trop tard. » Je soulevai le drap. Cette femme était très belle. Sa chevelure était auburne. Son visage, couvert de taches de rousseur, avait été défiguré par les très fortes douleurs qui avaient provoqué l'éclosion de boutons sur les taches de rousseur. Elle avait la bouche ouverte et les paupières à demi fermées. Oh, je n'oublierai jamais cette vision. Et ce cantique suivant me vint à l'esprit, « Ne convoitez pas les vaines richesses de ce monde. » À Port Fulton, non loin d'ici, je me tenais auprès d'un homme qui se mourait. Il m'avait appelé auprès de lui, et la nuit précédente, quand je priais à l'autel avec lui, il avait mis son bras autour de la taille d'une femme. Je lui dis, « Enlevez votre bras de cette femme. » Il me répondit, « Je la conduis au Seigneur. » Je répondis, « Pas de bras autour d'elle. Je ne crois pas à vos balivernes. » Il se mit en colère et il sortit. Et un peu plus tard, j'étais auprès de lui. Il était en train de mourir. Il me regarda en face et il me dit, « Ne priez pas pour moi, frère Branham. Je suis perdu, je suis fini. Tout ce que j'avais gagné, je l'ai perdu. » Une autre fois, je me trouvais auprès d'un homme qui habitait près de chez moi, au coin de la rue. Il m'avait appelé au moment de sa mort, et il me dit, « Toute ma vie, j'ai convoité ceci et cela, et encore cette autre chose, mais je n'ai jamais servi le Seigneur. Bien souvent, je me suis abstenu de me rendre à l'autel. » Il me dit encore, « Frère Branham, priez Dieu pour qu'il permette à ma fille qui est à la maison de pouvoir faire quelque chose pour le Seigneur afin que je sois en règle. » Je répondis, « Cela ne peut être fait, frère, il est trop tard. » Et j'ai assisté au combat d'un homme qui luttait contre des démons, et cela durant 24 heures. Il disait que les démons se tenaient auprès de son lit, enroulant des chaînes autour de son cou. Il criait, « Ne le laissez pas approcher de moi, il est là, ne le voyez-vous pas? Il s'approche de moi. » Et cet homme-là s'était éloigné du Seigneur depuis bien longtemps. Il possédait des granges remplies de foin et de blé, il possédait des chevaux de course. Et l'année précédente, il avait blasphémé le nom de Dieu. Il avait giflé sa femme parce qu'elle voulait se rendre au tabernacle. Savez-vous ce qui est arrivé? La foudre est tombée sur sa ferme, brûlant toutes ses récoltes et tuant tous ses chevaux. Et cet homme mourut brusquement alors qu'il se débattait contre les démons. Et un de mes vieux amis qui actuellement est dans la gloire arrivait au bout de sa route. Il me dit, « Dis à mes deux enfants de venir auprès de mon lit. » Il posa ses deux mains vieilles et faibles sur la tête de chacun de ses deux enfants. Il les bénit leur disant, « Élevez mes bras, tenez-les bien droits comme Josué et Caleb le firent. » Nous nous demandions ce qu'il pourrait bien dire. Il dit alors ce cantique, « quel heureux jour, depuis que Jésus m'a lavé de mes péchés, il m'a appris à veiller et à prier et à vivre dans la joie chaque jour. Mes amis, nous avons obtenu quelques-unes des choses que nous avons désirées. Celui-ci désire la bonne chair, conduire une belle auto et jouir de tout ce qu'il peut posséder. Je ne vous blâme pas, c'est bien, Dieu veut que vous le possédiez, mais ne convoitez pas les vaines richesses de ce monde. Levez vos mains pendant que nous chantons ce cantique « Tenez ferme la main du Dieu qui ne change pas ». Et pendant que nous sommes debout, retournons-nous et serrons les mains de notre voisin et chantons une autre strophe de ce cantique « Tenez ferme la main du Dieu qui ne change pas ». Faites-le, mère, faites-le, père, tenez ferme la main du Dieu qui ne change pas. Faites-le, enfant, faites-le, frère, bâtissez vos espérances sur les choses éternelles. Tenez ferme la main du Dieu qui ne change pas. N'êtes-vous pas heureux par lui? Dites Amen. L'assemblée répond Amen, note de l'éditeur. Tous ceux qui l'aiment, dites Louons le Seigneur. Et l'assemblée répond Louons le Seigneur, note de l'éditeur. Et tous ceux qui croient rejoindre cette cité pyramidale, levez les mains et gardez-les ainsi durant une minute pendant que nous chantons Je suis en partance pour cette belle cité que Dieu a préparé pour les siens, où tous les rachetés de tous les âges chantent gloire autour du trône blanc, et quelquefois je languis après le ciel, quelle joie ce sera quand je verrai mon Sauveur dans cette belle cité d'or. N'aimez-vous pas cela? Reprenons ce cantique, je suis en partance pour cette belle cité. Aimez-vous Jésus? Alors chantons, prenez le nom de Jésus avec vous, enfants de tristesse et de douleur. Il vous réjouira et il vous réconfortera, alors prenez-le où que vous alliez. Ô nom précieux, nom précieux, ô comme il est doux, espérance de la terre et joie du ciel. Maintenant, n'oubliez pas, dimanche prochain à 9h30, nous tâcherons alors, si Dieu le veut, de prier pour les malades. À dimanche prochain à 9h30, chantons encore ce cantique. Inclinons-nous au nom de Jésus, nous prosternons à ses pieds, roi des rois dans le ciel, nous le couronnerons. Quand notre voyage sera terminé, nom précieux, ô comme il est doux, espérance de la terre et joie du ciel, nom précieux, ô comme il est doux, espérance de la terre et joie du ciel. Écoutez bien cette strophe, inclinons-nous au nom de Jésus, il nous protège de tout piège, et quand les tentations vous enveloppent, murmurez simplement ce saint nom dans la prière. C'est suffisant. Ô nom précieux, ô comme il est doux, espérance de la terre et joie du ciel. Maintenant, je demande au pasteur le frère Neville de bien vouloir clore cette réunion par quelques mots. Amen.